Alors, quand nos enfants étaient petits, on a réfléchi à leur donner de l'argent de poche. Alors, Rosemary, mon épouse, en avait toujours eu de l'argent de poche, grâce à ses parents, puis à sa grand-mère aussi, je crois. Et moi, j'en avais jamais eu, donc j'étais pas vraiment habitué à ça. Bon, puis finalement, on a été convaincus que c'était une bonne chose de leur apprendre à gérer leur argent très tôt dans leur vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nos enfants font avec leurs enfants maintenant. Bon, ils font la même chose, même plus, je pense. Ils ont des grands adolescents maintenant, et au moins pour ceux qui ont les enfants les plus âgés, 15, 16, 17 ans, 18, bientôt 19. Bon, ils ont un vrai budget, là, pour leurs affaires, pour leurs sorties, etc. Gérer ses biens, gérer les ressources que Dieu nous donne, les ressources que Dieu met à notre disposition, ben c'est tout un programme de vie finalement. On se souvient des premiers chapitres de la Genèse, puis Dieu les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez les maîtres des poissons des mers, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà. Dieu a donné à l'homme et à la femme, hein, on parle de l'humanité, la responsabilité de gérer ce que Dieu mettait à leur disposition. De gérer, mais pas de posséder. L'apôtre Jean nous le rappelle dans une de ses épîtres. Voici ce qui appartient au monde, ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous parlent du problème de l'envie de posséder. Alors, les deux premiers versets tirés de la Genèse nous rappellent que Dieu a placé l'homme sur cette terre pour gérer. Et l'apôtre Jean nous met en garde contre l'un des dangers qui nous guettent, le désir de posséder. Alors, nous sommes vraiment tous conscients que le monde nous attire, nous pousse à acheter, à posséder. La publicité fait des ravages, alors c'est utile, la publicité, mais ça peut être un danger. Alors, il ne s'agit pas ici de condamner le fait d'acheter ou de posséder. Il s'agit de se poser la question, ai-je les moyens de m'offrir telle ou telle chose. Le monde moderne nous tend des pièges, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Ce qui est écrit quelquefois en tout petit caractère dans un contrat de prêt, un contrat de location, un contrat de leasing, peut nous conduire à d'amers regrets de s'être engagé sans avoir vraiment calculé le prix et les conséquences. Alors, quand on pense à quelqu'un qui pourrait être un exemple de sagesse pour gérer des biens, ben, j'ai pensé à Joseph, le fils de Jacob, qui, vous vous souvenez, a été vendu par ses frères et finalement est arrivé à la tête du pays d'Égypte. Et voilà un homme qui a fait preuve de sagesse et de prévoyance. Peut-être on peut afficher le texte. Voici le conseil que Joseph donne au Pharaon. Alors vous vous souvenez, ce Pharaon avait eu un rêve, il se demandait ce que ça voulait bien vouloir dire. Et Joseph lui dit, « Mais nomme aussi des commissaires chargés de prélever un cinquième des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. » Un cinquième, ça fait combien ça ? 20% ? Bon, je vois que vous savez calculer. Qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. La proposition de Joseph parut judicieuse au pharaon et aux gens de son entourage. Et le pharaon leur dit « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ?» Puis le pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant l'autorité sur toute l'Égypte. » La Bible parle beaucoup de sagesse. Et pour ce qui est de l'offrande et de l'argent, il faut vraiment se méfier des coups de cœur. Jésus a admiré la veuve qui a mis dans l'offrande de son nécessaire, vous vous souvenez. Mais ce n'était pas un coup de cœur, je pense. C'était un acte d'adoration de la part de cette femme. On sait que Dieu doit ou devrait être le premier servi dans notre budget, n'est-ce pas ? Alors attention au coup de cœur. On peut être tenté de venir au secours de quelqu'un qui se noie alors qu'on ne sait pas nager. De donner alors qu'on n'en a pas les moyens. Dieu pourvoira si sincèrement vous ne pouvez pas donner ou secourir. Quelqu'un d'autre le fera. La sagesse s'exerce en calculant avant d'engager une dépense, ou sur les conséquences d'un achat, ou en prenant un crédit. Si l'un de vous veut construire une tour, vous vous souvenez ce que Jésus dit, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Et un texte que vous avez dû lire il n'y a pas très longtemps, si vous suivez le parcours du Nouveau Testament, Éphésiens 5, 8 à 10 et 15 à 17. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ainsi, prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Oui, glorifiez Dieu dans ma façon de vivre, dans notre façon de vivre. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité devant Dieu et devant le monde qui nous regarde vivre. Dieu pourra-t-il nous dire, comme Jésus dans la parabole des talents, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alors, quelle image donnons-nous à notre entourage ? Une façon de glorifier Dieu, c'est d'établir les bonnes priorités dans la gestion de nos biens, de notre argent. Alors, nous avons déjà dit que dans notre budget, nous devrions mettre l'offrande à Dieu en tête de liste, selon nos moyens et selon ce que nous avons résolu de donner, comme dit l'apôtre Paul, sans contrainte. Alors à propos de l'offrande, on ne va pas traiter de ça aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a un excellent petit livre, hein, ce n'est pas très long, mais c'est très complet, « Dîmes et offrandes », hein, qui a été écrit par Marie-Christine Collat. Donc c'était la bibliothèque. Ça ne vous coûtera pas une grande fortune. Là, vous pouvez l'acheter sans trop réfléchir. 6 euros. Voilà. Dîmes et offrandes, pourquoi donner ? Ne vous privez pas de ça. Une autre priorité, alors on dit glorifier Dieu, servir Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, puis ensuite, et là je sais que beaucoup d'entre vous sont exemplaires quant au soutien de leur propre famille. L'apôtre Paul rappelle aux croyants, dans la première lettre aux Timothée, donc là vous avez dû lire ça vendredi ou samedi, hein. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Ouais, c'est pas toujours facile d'avoir la famille au pays ou des personnes âgées ou la famille proche à soutenir, hein. Surtout quand on n'en a pas les moyens. Moi, c'est difficile de ne pas avoir les moyens, hein, pour les choses, pour secourir, mais aussi même pour quelquefois pour les loisirs. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais des amis qui étaient déjà salariés, donc il y avait des ressources. Et ils m'invitaient à sortir, ils me disaient, tiens, on va... On ne disait pas, on va se faire une toile à l'époque, mais ça... On va aller au cinéma ou en week-end... ou au restaurant. Et moi, je n'avais pas d'argent de poche. Je travaillais en été pour avoir un peu, pour payer mes vacances. Mais je n'osais pas dire que j'avais des problèmes d'argent à mes copains. Alors quand ils m'invitaient, ben, c'était embêtant. Parce que je trouvais des excuses pour ne pas y aller. Puis alors, quelquefois, ils se rendaient compte que, en fait, j'avais un problème d'argent. Alors ils me disaient, mais c'est moi qui paye, je t'invite. Alors des fois, c'était encore pire parce que je n'avais pas vraiment envie d'être à leur charge. C'est compliqué. De dire non, de dire je ne peux pas. Alors pour les loisirs, bon, c'est pas gravissime. Mais quand il y a des besoins dans la famille, quand on est sollicité par un ami, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'avancer quelques centaines d'euros, c'est difficile de dire, mais je ne peux pas. Je suis déjà très juste ou je suis déjà dans le rouge à la banque. Alors, si surviennent des problèmes d'argent, comment on fait ? On a vu que Dieu attend de nous que nous soyons de bons intendants des biens qu'il nous confie. On a vu l'exemple de Joseph, qui a été rempli de sagesse. On souhaite tous glorifier Dieu dans notre manière de vivre. Mais malgré tout, parce que nous sommes des pécheurs, hein, il arrive que nous soyons pris au piège de la convoitise. C'est le dixième commandement, n'est-ce pas ? On est pris au piège d'un manque de sagesse ou des ruses du diable. Alors, si on a des problèmes d'argent, ben, pour faire simple, on peut les classer en deux catégories. Les problèmes dont nous ne sommes pas responsables. Il peut arriver perdre son emploi ou la perte du soutien de famille. Bref, des accidents de la vie, ben là, il nous reste vraiment à compter sur Dieu, sur la famille, sur les frères et sœurs, sur l'Église aussi. Espérons que nous avons, comme Joseph, été prévoyants et qu'on a envisagé des jours difficiles. Mais pour certains, les charges de famille sont si grandes que ce n'est pas vraiment possible d'épargner, de mettre 20%, comme Joseph l'avait proposé au Pharaon, de côté pour les moments difficiles. Les temps sont durs. Il y a des charges qui sont incompressibles et qui sont nombreuses, hein, le loyer, la nourriture, les impôts, que sais-je. souvenons-nous que notre Père a un cœur pour les pauvres. Ce n'est pas un péché d'être pauvre ou d'être ric-rac. Jésus avait un cœur pour ceux qui luttent, pour ceux qui ont peu. Puis la deuxième catégorie, c'est les problèmes dont on est responsable, parce qu'on a manqué de sagesse. Quelquefois, on doit admettre que, on a manqué de sagesse dans notre train de vie, on a pris beaucoup trop de crédit. Ben, on y est poussé, n'est-ce pas? Mais on n'est pas obligé. On a accumulé des dettes, on a engagé des dépenses qui ne sont pas toujours indispensables. Alors, il nous faudra peut-être apprendre à vivre plus modestement, comme savait le faire l'apôtre Paul, vous vous souvenez, il a écrit qu'il savait lire, qu'il savait vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il nous faudra peut-être apprendre à résister aux appels de la publicité, à résister à l'envie de se conformer à la mode, enfin, que sais-je. Et pour ça, les enfants, moi, on a remarqué avec nos enfants et puis nos petits-enfants, quand ça sort vraiment de leur propre poche, de leur budget à eux, ils savent résister aux marques d'un seul coup. Il nous faudra peut-être apprendre à faire un budget. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais faire un budget sur un bout de papier ou maintenant peut-être sur un portable. Et là, je suis à votre disposition si jamais vous avez envie d'explorer ça. Si vous avez des soucis, en toute discrétion, passez-moi un petit coup de fil ou un petit mail. Si vous avez envie d'une aide pour établir un budget, c'est des choses que j'ai fait plusieurs fois, et c'est intéressant de travailler comme ça, de regarder les chiffres en face. Un budget, ça sert à vérifier qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Alors, heureusement, on vit dans un pays où on peut dire coule le lait et le miel, surtout le miel. Je dis ça parce que je suis apiculteur, enfin j'étais apiculteur pour ceux qui le savent. Et il y a un certain nombre d'allocations quand même, de garde-fous, mais ces allocations, elles sont bien faibles, hein, on le sait, mais ça existe. Mais il y a quelquefois de véritables drames humains quand même, hein. Et puis, il y a aussi des commissions pour examiner des situations de surendettement, des choses comme ça. Donc là aussi, il y a des aides possibles. Mais souvenons-nous que la grâce de Dieu est toujours disponible. Jésus a payé notre rançon sur la croix. C'est une bonne nouvelle. Nos péchés sont effacés. C'est une super bonne nouvelle. Mais pas nos dettes terrestres, hein, envers le banquier. Il faudra bien les rembourser. Voilà, que Dieu nous vienne en aide en veillant aussi les uns sur les autres. C'était aussi le thème du week-end d'église. Pour conclure, Dieu a fait de nous des intendants. Que nous soyons trouvés fidèles. Combattons le désir de posséder. Ça, c'est pas facile. Recherchons la sagesse de Dieu dans nos décisions. Glorifions Dieu dans notre manière de vivre. Faisons-le pour lui. Et si l'adversité survient, comptons sur la grâce de Dieu sans se priver de prendre conseil et de demander de l'aide aux plus proches. Veillons les uns sur les autres. Je vous propose de prier. Seigneur, tu as fait de nous des temples de ton Saint-Esprit. et nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom. Donne-nous le désir de glorifier ton nom dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, aussi de rechercher ta sagesse, ton conseil pour gérer nos biens et nos priorités. Et Seigneur, rends-nous aussi attentifs aux besoins autour de nous. Seigneur, ton esprit qui réside en nous veut prendre toute la place. Donne-nous, Seigneur, vraiment le désir qu'il prenne toute cette place. Nous t'en prions en Jésus. Amen.